Bonjour à tous. Ce matin, dès la semaine dernière, nous sommes au deuxième dimanche de l'année 2019 et nous sommes dans cette série résolution. Et la semaine dernière, le pasteur Miguel nous a présenté une version inédite de la parole de Dieu du psaume 119, où nous avons pu découvrir encore une facette de la parole de Dieu. Et c'était une version vraiment intéressante que Miguel nous a partagée. Et au-delà de la version qui était très intéressante, c'est le contenu même du texte qui était intéressant. Parce que dans ce texte, qui est le psaume 119, on voit toute la beauté de la parole de Dieu, toutes les richesses de la parole de Dieu. On voit cette affection, cet amour de David pour la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons poursuivre un peu sur cette thématique. Donc, nous avons parlé de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Qu'est-ce que la prière? Comment la prière peut être pour chacun d'entre nous ce matin une résolution pour 2019? Comment est-ce que la prière peut être pour nous un point de départ central pour nous pour 2019? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vais inviter Mélanie à nous faire la lecture des deux passages bibliques sur lesquels nous nous appuierons ce matin pour l'exposé.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de 1 Rois, chapitre 18, versets 41 à 46, et dans Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Je vais commencer par 1 Rois, chapitre 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jézréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était comme un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie, sur la terre pendant 3 ans et 6 jours. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton saint nom parce que tu es un Dieu redoutable. Seigneur, ce matin nous sommes là, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que toi tu as été pour nous à la croix. Seigneur, tu es venu et tu as pris notre place alors que nous étions encore errants comme des brebis perdues. Christ est mort pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous enseigner, de nous instruire ce matin pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas entendre un homme nous parler de quelque nature que ce soit. Nous voulons entendre le Saint-Esprit communiquer sa parole de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Seigneur, nous voulons que ton esprit vienne nous enseigner, nous instruire dans ta parole. Seigneur, efface-moi devant ton peuple afin que toi seul sois vu, entendu ce matin. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. le village avait déjà un air de fête. Les passants allaient et venaient chargés de paquets de toutes sortes de leurs dernières courses et achats de dernière minute. Fallait rien oublier, car demain, aucun magasin, aucune épicerie ne sera ouvert. Ce soir, c'est la veille de Noël. Et dans le petit village, l'atmosphère était bien à la fête avec des décorations de Noël qui scintillent de tous leurs éclats devant les maisons. Sur la grande place, du village, un marchand avait monté un kiosque en plein air pour les fêtes. Debout derrière sa grosse balance, il vendait à ses clients toutes sortes de marchandises. Mais loin là-bas, sur la colline, une vieille maison presque abandonnée et sombre ne semble pas participer à la fête. Entrons, chers frères et sœurs, dans cette vieille maison. On pousse péniblement la porte qui grince et le plancher qui craque sous vos pieds et on avance presque à tâtons dans cette obscurité où seule la flamme d'une pauvre bougie sur une table éclaire à peine. Devant cette table, une femme était assise, tenant sa tête dans ses mains et des larmes coule silencieusement sur ses joues. Non. Anna n'a plus rien à donner à ses enfants qui, morts de faim, ont fini par s'endormir. Si au moins elle avait une orange ou un biscuit, ça serait quand même Noël pour elle et pour ses enfants. Mais son porte-monnaie était désespérément vide. Et elle n'osait pas mendier. Ses pensées tristement s'envolent. Elle se souvient de sa maman. Sa maman lui a dit un jour qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Non. Anna n'a jamais prié. Et pourtant, ce soir-là, sans vraiment savoir ce qu'elle fait, un peu mécaniquement, elle saisit un morceau de papier sale qui traîne sur la table et elle inscrit une prière. Et toujours, sans savoir vraiment ce qu'elle fait et un peu mécaniquement, elle met sa prière dans son gros panier d'épicerie et la voilà dans la rue en direction de la grande place où le grand marchand, derrière sa balance, vend des marchandises en plein air. Elle prend place dans la file, chacun attend son tour. Plus que deux clients avant elle. Plus qu'un client. Et la voilà toute tremblante devant le marchand qui la regarde d'un air soupçonneux. Dites, madame, avez-vous de quoi payer? Car vous savez que je ne fais pas crédit. Anna rougit et balbutie. Je n'ai rien, rien qu'une prière. Le marchand éclate de rire. Et c'est avec une prière que vous pensez me payer? Le marchand rit et les clients autour rient aussi. Allez, donnez-moi votre prière. On va bien voir ce qu'elle pèse. D'une main tremblante, Anna lui tend le bout de papier sale sur lequel elle a inscrit tout à l'heure toute sa détresse. Le marchand a bien l'intention de s'amuser un peu. Il met la prière dans un des plateaux de sa balance et dans l'autre, il dépose une feuille de salade. La prière est plus lourde. Le marchand saisit alors deux clémentines et les pose dans le plateau. Non, la prière est quand même plus lourde. Ah, je ne pensais pas qu'une prière soit si lourde, s'exclame-t-il. Il met avec les clémentines une grosse baguette de pain et quelques biscuits. Non. La prière est quand même plus lourde. Les autres clients se sont approchés pour mieux voir. Le marchand ne rit plus. Et attrapant tout ce qui lui tombe sous la main, des friandises et même des jouets, il les jette dans le plateau plutôt que de les déposer. Non. La prière est quand même plus lourde. De plus en plus gêné, le marchand attrape des choses plus lourdes. Une bûche de Noël, un gros jambon. Il ajoute au plateau déjà bien rempli. Non. La prière est quand même plus lourde. Le marchand ne rit plus du tout. Il remplit le plateau jusqu'à ce que celui-ci déborde. Non. La prière est encore plus lourde. Ne pouvant plus rien ajouter, il verse le contenu du plateau dans le panier d'épicerie d'Anna. Lorsque Anna, remplie de joie et de reconnaissance, s'en est retournée chez elle, le marchand perplexe a retourné sa balance. Et il a vu que dans le mécanisme de bascule de la balance est venue se coincer une grosse carotte. Il aurait pu mettre 50 kilos sur son plateau, la balance n'aurait pas bougé. Bien-aimé, c'est quoi l'explication de ce récit? Naturellement, la carotte coincée est une explication. Mais l'autre explication, c'est le psaume 50, le verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. » Voilà l'autre explication. En s'appuyant sur cette histoire ce matin et sur le passage biblique que Mélanie nous a lu tout à l'heure, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Prier, c'est d'être partenaire avec Dieu qui est fidèle et puissant pour accomplir les promesses de sa parole en toutes circonstances. C'est quoi prier? Prier, c'est d'accepter de devenir partenaire avec un Dieu fidèle et puissant qui est capable d'accomplir toutes les promesses qui sont dans sa parole et ceci en toutes circonstances. Prier est d'abord une question d'attitude. Prier, c'est une question d'attitude devant Dieu. Déjà au chapitre 18 de 1 Roi qu'on nous a lu, on voit que Élie, le prophète Élie, accepte d'être partenaire avec Dieu. Avant de lire les deux premiers versets de 1 Roi 18, j'aimerais qu'on se replace ensemble dans le contexte de cette histoire. Le roi Achab et sa femme Jézabel s'étaient détournés de la loi de Dieu, de l'Éternel, pour servir d'autres dieux, les Baals. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre tout le peuple d'Israël, et pendant plus de 3 ans, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau qui est tombée en Israël. Une famine sévissait dans tout le pays et la détresse du peuple était très grande. Et c'est dans ce contexte que, dans sa miséricorde, Dieu intervient et Élie va être un partenaire de Dieu dans cette intervention divine. Regardons ensemble les deux premiers versets de 1 Roi 18. Élie accepte ce partenariat avec Dieu. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Quand on arrive au verset 41, là où la lecture de ce matin a commencé, Élie venait de remporter une grande victoire contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et de nouveau, le peuple a accepté de se tourner vers l'Éternel, leur Dieu. Et c'est dans cette attitude, dans cette nouvelle attitude du peuple de Dieu, que l'Éternel, la bénédiction de Dieu, va couler à nouveau. Mais comment est-ce que cette bénédiction va arriver à couler à nouveau? Bien que l'Éternel lui-même ait déclaré qu'il y aura une pluie ce jour-là en Israël, le prophète Élie a accepté de devenir partenaire pour rappeler à Dieu la promesse qu'il a faite quand il lui a parlé. On voit bien au verset 41 et 42, Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Remarquez un peu le verset 42, la conjonction de coordination qui est utilisée, le mot « mais », qui met en opposition en fait deux attitudes, l'attitude d'Élie et l'attitude du roi Akab. La Bible nous dit que Élie est monté au sommet du Carmel pour rencontrer Dieu et pour rappeler à Dieu sa promesse de faire venir la pluie ce jour-là en Israël. Par contre, le roi Akab, la Bible nous dit qu'il s'en est allé pour manger et pour boire. Élie montre aussi une attitude de soumission. Regardez le verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant face contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il se penche face contre terre. C'est le symbole d'une soumission et d'un abandon absolu à Dieu. Il se penche face contre terre. Bien-aimé, l'attitude, la posture et même le gestuel sont importantes quand on fait une demande. Est-ce que certains ont fait une demande de mariage à leur époux ou à leur épouse? Si vous avez fait une demande de mariage, vous savez que ça ne se fait pas n'importe comment, n'est-ce pas? Vous avez probablement pris une attitude pour convaincre votre dulcinée que vous êtes prêt à vous engager dans une relation qui est importante pour vous. Vous avez pris une attitude. Votre gestuelle, la manière dont vous êtes présenté, l'attitude, tout cela est important. Nous enseignons à nos enfants à dire « s'il vous plaît » quand ils demandent, n'est-ce pas? Pourquoi leur enseignons-nous à dire « s'il vous plaît » ? Pourquoi votre enfant ne peut pas tout simplement venir se dresser et réclamer ce qui lui est dû, puisque vous le lui avez déjà promis? Bien-aimé, notre attitude est importante. Notre attitude quand nous venons devant le Seigneur dans la prière, est importante. Sommes-nous des Élie? Ou ce publicain qui était dans le temple, qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, tant il était conscient de sa position devant Dieu. Il était là, les yeux, la tête baissée, les yeux qui regardaient le sol, et il se frappait la poitrine en disant, « Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. » Est-ce que nous sommes Élie, comme Élie qui avait là, qui était monté au sommet du Carmel et qui s'était baissé dans cette attitude de soumission et d'abandon absolu devant Dieu? Ou sommes-nous plutôt comme ce pharisien, arrogant et debout, confiant en ses propres mérites? Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que nous devons forcément prier à genoux ou que nous devons forcément prier face contre terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une position privilégiée pour la prière parce qu'on peut être à genoux mais debout dans son cœur. Un jour, des parents ont puni leur fils qui avait désobéi en le mettant à genoux dans un coin de la maison. Mais quand les parents regardaient le visage du petit bonhomme, ils n'avaient pas l'impression qu'il a compris pourquoi il était à genoux dans ce coin. Alors le papa finit par l'interroger. « Est-ce que tu es conscient que tu es en punition ?» Et le petit jeune homme de répondre à son père, « Oui, papa, je suis à genoux, mais je suis debout dans mon cœur. » Voyez-vous, on peut être à genoux pour l'apparence, mais dans notre cœur, être encore debout. Alors, quelle attitude devons-nous avoir quand nous approchons de Dieu? Telle est la question. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu en ayant conscience que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, veut que nous nous approchions de lui, sachant que c'est lui qui est le patron, sachant que c'est lui qui est le chef de toutes choses. Prier, c'est croire Dieu. C'est croire en sa parole. Prier, c'est croire ce que Dieu dit. Il y a une grande différence entre croire Dieu et croire en Dieu. Il y a une très grande différence entre les deux. Croire Dieu et croire en Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu. Demandez autour de vous. Plusieurs personnes vous diront « Je crois en Dieu ». Mais est-ce qu'ils croient vraiment en sa parole? Est-ce qu'ils croient vraiment ce que Dieu dit? La parole de Dieu est suffisante. On nous l'a rappelé la semaine dernière. La parole de Dieu est suffisante. Elle est utile pour toute chose dans notre vie et pour notre salut. Et c'est elle et elle seule qui doit guider, qui doit nous guider dans la prière. C'est ce que la Bible nous dit quand nous lisons Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Croire Dieu implique aussi d'être conscient que Dieu est fidèle et qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Un de mes versets préférés dans la parole de Dieu se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 11. Les deux premiers versets disent « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Anna, dans mon histoire d'introduction, a expérimenté la fidélité et la puissance de Dieu. Elle s'est souvenue que sa mère lui a parlé d'un Dieu fidèle. Mais mieux que ça, Anna a fait quelque chose de plus. Elle a osé. Elle a osé se mettre dans la file d'attente avec comme seule monnaie d'échange une prière. Que dis-je? Un bout de papier sale. C'était ça la monnaie d'échange d'Anna. Et mieux que ça, Anna a osé tendre ce bout de papier sale au marchand pour acheter les marchandises. Voilà, elle avait confiance en la fidélité et en la puissance de Dieu. En quel Dieu croyez-vous, bien-aimés? En quel Dieu croyons-nous? Mon Dieu guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Mon Dieu est fidèle. Voilà le Dieu en qui moi je crois. Anna, d'abord, a rappelé à Dieu sa détresse, son statut. Sa détresse et son statut, c'est ça que Anna a rappelé à Dieu sur ce bout de papier. Et après cela, elle s'est tout simplement saisie de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. » Anna s'est saisie de cette promesse. C'est quoi prier? Prier, c'est persévérer jusqu'à la victoire. Est-ce que vous savez que Dieu exauce toujours la prière du chrétien qui place sa foi en lui? Est-ce que nous le savons? Que Dieu exauce toujours la prière? La question n'est pas de savoir si Dieu exauce la prière ou pas. La question est de savoir si nous allons user de patience jusqu'à ce que Dieu exauce notre prière. Pour y parvenir, nous devons faire preuve de persévérance. Nous devons demander avec instance. La persévérance dans la prière implique que nous devons demander avec instance. Littéralement, nous devons implorer, réclamer. C'est le sens de l'histoire que Jésus a racontée de cet homme qui est venu de nuit chez son voisin et qui a sonné à la porte parce qu'il venait de recevoir de la visite et il n'avait rien à donner à ses visiteurs. Il a sonné à cette porte jusqu'à ce que son voisin se décide de se lever et venir répondre à sa requête. Voilà comment nous devons persévérer. Bien que la promesse de la pluie ait été donnée à Élie, c'est Dieu qui a parlé à Élie. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a parlé à Élie. Il a dit à Élie, aujourd'hui, en Israël, il y aura de la pluie. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que Élie fait sur la montagne en train de demander à Dieu de faire venir la pluie, puisque Dieu venait de le dire. Croit-il ou non en la parole que Dieu lui a dite? Mais on voit plutôt Élie prier avec instance. Le verset 43. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit cette fois, « Retourne. » Élie ne prie pas seulement une fois. Il prie jusqu'à ce qu'il y ait une évidence claire que sa requête était exaucée, que sa prière était exaucée, que la promesse de Dieu était en cours. Remarquez que Élie n'avait aucune idée de quand il allait pleuvoir. Dieu a dit qu'il allait pleuvoir, mais Élie n'avait aucune idée de quand il allait pleuvoir. À cette reprise, il doit se reposer sur sa foi et non sur sa vue, car rien au ciel n'annonce la pluie. Rien dans le ciel n'annonce la pluie. Le serviteur était témoin. Le serviteur est allé observer, scanner tout l'horizon, et il n'avait rien vu, il n'y avait aucun signe qui annonçait la pluie. À cette reprise, Élie doit se reposer sur sa foi et non sur sa vue. Le serviteur d'Élie n'apportait que de mauvaises nouvelles. Il n'y a rien. Il n'a rien. C'était la seule mauvaise nouvelle que le serviteur d'Élie lui apportait. Et Élie, au lieu de se décourager, plutôt, au contraire, redoublait d'ardeur. Et dans la Bible, le chiffre 7 est souvent utilisé comme un symbole plutôt qu'un chiffre. Un symbole qui, souvent, pointe vers une action qui doit se répéter autant de fois que nécessaire. C'est ce que le chiffre 7 représente souvent dans la Bible. Et comme Élie, la responsabilité du chrétien n'est pas de savoir si sa prière va être exaucée, mais ni de savoir quand et comment cette prière va être exaucée. La responsabilité du chrétien, c'est de persévérer jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Toutes les promesses de la Bible sont vraies. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont certaines. La Bible nous dit qu'elles marchent vers leur accomplissement. Elles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront certainement. Si elles tardent, nous devons les attendre parce que ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Il arrive parfois que nous ayons de mauvaises nouvelles, mais pas de panique. Continuons, persévérons dans la foi, par la foi, dans la prière et non par la vue. En effet, Élie n'est pas une exception, mais Élie, c'est la règle. Élie, c'est l'exemple parfait du chrétien. C'est le sens de l'encouragement de Jacques qu'on nous a lu ce matin dans Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Dieu accomplit toujours sa promesse. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Après avoir imploré l'Éternel autant de fois que nécessaire, Élie voit enfin l'accomplissement de la promesse de Dieu, comme d'ailleurs Dieu le fait toujours. Versets 44 et 45. À la septième fois, c'est-à-dire après autant de fois que nécessaire, il dit, le serviteur qui est allé scruter le ciel, dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jézreel. J'aime voir la puissance de Dieu se déchaîner. Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Dieu ne fait pas dans la dentelle. Quand les écluses de cieux s'ouvrent et que l'Éternel déverse sa bénédiction, c'est un peu comme l'image, la vision que le prophète Ézéchiel a eue du fleuve qui sort du trône de Dieu. Ce fleuve sort et d'abord, il mouille vos pieds. Et des pieds, ils montent aux genoux. Des genoux, ils montent à la taille et vous voici submergés par les bénédictions de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu en action. Bien-aimé, c'est ce que Anna a aussi expérimenté sur le plateau de ce marchand. D'abord une feuille de salade, quelques clémentines, une baguette de pain. Et la voilà avec une bûche de Noël et des jambons. Jusqu'à ce que le plateau déborde. Voilà comment la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu qui fait confiance à son Père céleste. Mais ne nous leurrons pas, bien-aimés. Prier est un défi. Prier, c'est un défi de foi au quotidien. D'abord, la prière exige d'abord l'obéissance à la parole. C'est le point de départ. On ne peut espérer être exaucé dans la prière si nous n'obéissons pas à la parole. Tous les chrétiens savent que la prière est importante. Mais Dieu dit qu'une prière qui n'a pas pour fondement l'obéissance de la parole de Dieu est une prière inutile et même que c'est une abomination. C'est ce que Proverbe 28, le verset 9 nous dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, sa prière même est une abomination. Chaque jour de notre vie, nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Nous devons vivre de manière à glorifier Dieu jusqu'à ce que nous ayons la victoire et que la promesse de Dieu dans sa parole s'accomplisse parce que nous obéissons à sa parole. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point. Voici une parole qui vient nous rassurer que nous pouvons faire confiance pleinement à la parole de Dieu. Mais prier aussi, c'est d'être conscient que les promesses de la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont pour nous une garantie de la victoire. Prier par la foi revient littéralement à prendre au mot Dieu, à prendre à la lettre exactement ce que Dieu dit et à l'appliquer dans notre vie. Probablement que vous me direz ce matin, comment savoir si cette parole s'applique à moi? Oui, c'est un texte de la Bible. C'est une promesse de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que je peux être convaincu, certain, que ce texte-là, cette parole-là, cette promesse-là en particulier, s'applique à moi? Sachez-le bien, chers frères et sœurs bien-aimés, que toute la parole qui est dans la Bible s'applique à vous personnellement. Comment je le sais? Comment je sais que toutes les Écritures, tous les textes, toutes les promesses de la parole de Dieu s'appliquent spécialement à vous? Voici, bien-aimé, la réponse. S'il n'y avait qu'un seul homme sur la terre, si vous étiez la seule personne sur la terre, Dieu aurait néanmoins donné toute la parole telle qu'elle existe aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Est-ce que ça fait du sens? Si vous étiez la seule personne sur la terre, Dieu aurait néanmoins donné toute la parole telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, toute cette parole s'applique à vous, bien-aimés. Toute la parole s'applique à vous. La parole de Dieu a été donnée. Et vous pouvez faire confiance en cette parole. Il n'y a pas de circonstances trop spéciales ou particulières. Pour chaque circonstance, chaque événement, pour chaque épreuve de votre vie, Dieu a une promesse dans sa parole qui s'applique à vous. Vous pouvez reposer votre foi dans la prière sur cette parole. Si tu traverses une situation difficile et que pour toi, il ne semble pas avoir d'issue possible, souviens-toi de celui qui a dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » C'est ce que Dieu nous dit. Peut-être que ta santé t'inquiète. Tes bilans médicaux sont mitigés. Souviens-toi que le médecin soigne, mais que c'est l'Éternel Jéhovah Rapha qui guérit. C'est lui qui a le droit de vie et de mort sur toute personne. C'est pourquoi Jacques nous rappelle, Jacques 5, le verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Mais si dans sa souveraineté, si Dieu dans toute sa souveraineté décide qu'il en sera autrement, alors il te donnera une demeure bien plus meilleure, car la parole de Dieu nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, 4 et 5. Si tu as peur du lendemain, sache, si tu t'inquiètes de demain, demain te fait peur, sache que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Oh, peut-être que tu doutes de ton avenir. Peut-être que tu doutes de ton avenir. Dieu déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Deutéronome 28, le verset 13. Avant de conclure et d'inviter les musiciens à revenir, j'aurais pu continuer, bien-aimés, indéfiniment, à énumérer toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et au bout du compte, je vous aurai lu toute la Bible. Je vous aurai lu toute la Bible. Je voudrais simplement ce matin vous mettre de l'eau à la bouche, vous inciter à redécouvrir cette parole de Dieu dont on nous a encouragé la semaine dernière, à redécouvrir chaque promesse de la parole de Dieu, mais mieux encore, à vous les approprier. Seulement, ce n'est pas seulement la découvrir, mais se les approprier par la foi dans la prière. Pour moi, la prière, c'est comme un chèque en blanc sur lequel vous pouvez inscrire le montant de votre choix, pourvu que cela soit dans la parole. C'est un chèque, vous pouvez inscrire n'importe quel montant. Alors, prions les Écritures et prenons en possession toutes les promesses de la parole de Dieu. Vous pouvez choisir de mettre un gros montant ou un petit montant. C'est un chèque en blanc. Donc, vous mettez le chiffre qui vous plaît. Cela sera tout simplement la démonstration de votre foi. Le montant que vous mettrez sera la démonstration de votre foi parce que la parole de Dieu dit que nous avons un Dieu qui est bon, qui est généreux et qui est riche. Il ne s'agit pas forcément de l'argent, mais de toute bénédiction. Quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien ce chant qui dit « Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, j'ai la foi en la parole de Dieu. Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. » J'aimerais que nous puissions partir cette semaine en disant « Toutes les promesses !» Toutes les promesses de la Bible sont à moi. Toutes les promesses. Bien-aimés, cette année, nous avons l'opportunité de parcourir en entier toute la Bible. Sortez vos crayons. Sortez vos surligneurs. Allez sur YouVersion. Coloriez. Sélectionnez toutes les promesses de la Bible qui sont à vous. Et chaque matin, quand vous sortez, après avoir lu un texte cette semaine, demain matin, faisons un petit exercice demain matin. Demain matin, lisez votre texte, surlignez quelques bonbons de la parole de Dieu. Soulignez-les et sortez tout fièrement en marchant comme un grand homme. Parce que vous êtes un grand homme. Non, 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 les femmes ne sont pas exclues. Vous êtes une grande femme. Sortez fièrement et en marchant en disant « Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, j'ai la foi en la parole de Dieu. Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. » Prions. Seigneur, toutes les promesses, toutes les promesses de la Bible sont à moi. Seigneur, j'aimerais que mes frères et sœurs ici ce matin s'approprient cette parole de vérité que toutes les promesses dans la Bible sont à nous. Seigneur, tu es venu mourir sur la croix. Tu es venu mourir sur la croix pour nous donner cette parole. Et cette parole, nous voulons, Seigneur, faire de cette parole notre vérité pour 2019. Nous voulons prendre la résolution de considérer toutes les promesses dans la Bible comme étant des promesses que tu nous as faites à nous personnellement. Seigneur, viens te glorifier en 2019 dans la vie de chaque sœur, de chaque frère, de chacun de tes bien-aimés pour lesquels tu es allé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, je crois en la parole de Dieu. Toutes les promesses dans la Bible sont à moi. Amen.